Thomas, est-ce que tu pourrais mettre le... Parfait. Ce matin, je voudrais vous partager sur un sujet. Il y a eu quelques infos et quelques prières qui ont été données aussi ce matin en ce sens. Je vais peut-être un peu devancer aussi la conférence sur le cœur du Père, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je voudrais partager ce matin. Et ça répond aussi un peu à la suite des prophéties que Isabelle Allom m'a données. Et je veux rentrer un peu dans les choses qu'elle m'a données. Et je veux partager sur des choses qu'elle m'a dit ou que Dieu me dit de partager. Donc voilà, c'est un peu une ébauche et quelque chose qui est sur mon cœur en ce moment et peut-être qui va évoluer dans le temps. Alors ce matin, nous allons nous regarder dans un miroir. Je ne sais pas vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même personne que vous êtes vous-même. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Vous avez tous joué à ce petit jeu, qui suis-je, où on lève les petits personnages, où on les descend plutôt, pour trouver la personne qui est identique à celle que celui qui est en face de nous. En réalité, on se définit par l'image qu'on voit. La façon dont on se représente et ce qu'on est, on sait qui on est, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on croit. Mais je pense aussi qu'on se définit parce que les autres voient et parce que les autres nous renvoient. Alors quand c'est un miroir, c'est facile, c'est toujours la même image. Mais quand on est en face de personne, une personne qui est très extravagante, on a l'impression de ne pas l'être. Une personne qui est très extravertie, on a l'impression peut-être plus introvertie. Quelqu'un qui est très joyeux, quand on est en face de lui, peut-être qu'on se dit « mais moi, je ne suis pas si joyeux que ça » ou l'inverse. Et il y a toujours un rapport qui se fait les uns avec les autres. Et ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce que la Bible dit ? Donc rapidement, on connaît tous cette histoire, la Genèse, on en parle souvent, on revient à l'origine, parce qu'à l'origine, les choses étaient parfaites, et quelque chose s'est passé. Et Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, c'est-à-dire attaché à la terre. On voit un peu plus loin, on connaît l'histoire, le serpent qui dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis un peu plus loin, qu'est-ce qu'on lit ? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme, il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme, il les a créés à son image. L'homme a été séduit par Satan, il veut devenir l'égal de Dieu. Donc il y a quelque chose qui a été perverti à ce moment-là, dans l'ordre et dans la création de Dieu. À ce moment-là, Dieu empêche qu'il y ait une catastrophe, il va protéger l'arbre de la vie éternelle pour pas qu'il vive éternellement avec cette condition. Et un peu plus loin, j'ai trouvé quelque chose d'assez frappant, quand on voit la vie de Adam, à l'âge de 130 ans, il engendre un fils, et il est dit un fils à sa ressemblance, selon son image. Il donna le nom de Seth. Alors, à sa ressemblance, je ne pense pas que c'était la ressemblance de Dieu, l'image parfaite de Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui a dû changer à ce moment-là. Cette image, l'image de Dieu qui a été donnée, elle a été altérée par le péché. C'est une image qui a été ternie, comme une eau troublée. On ne voit plus vraiment à travers. Il n'y a plus la même brillance, il n'y a plus le même reflet. Et donc cette image corrompue, on la voit se propager de génération en génération, et on le voit dans toute l'histoire de la Bible et jusqu'à nos jours. Et je dirais aujourd'hui que personne ne connaît vraiment comment il est. Comment ? On ne peut pas être à l'extérieur de soi et de savoir vraiment comment on est. On peut se voir sur une vidéo. Puis parfois, on est choqué, on se dit « Oula, c'est moi ça ? C'est comme ça que je parle ?» On ne connaît pas vraiment quelle est notre véritable identité. on la cherche, les hommes la cherchent. Et on fait toutes sortes de développements personnels, où on fait des recherches peut-être avec des psychologues, des psychiatres, des psychologues ou des personnes qui ont une connaissance sur ces choses-là pour essayer de connaître quelle est mon identité. On peut chercher toute notre vie, mais il y a quelque chose qui a été altéré. Il y a quelque chose qui est voilé. Et je dirais qu'on est comme amnésique des vérités de Dieu. Dieu a donné des vérités à la création, mais ces choses-là, elles se sont altérées. Donc c'est comme si on était amnésique et il y a quelque chose qui s'est passé. Personne ne connaît sa véritable identité, ni comment il a été connu de Dieu. Et du coup, et c'est ce que je disais au départ, on va laisser les hommes nous définir. On va laisser les hommes nous attribuer des identités, des images, quelque chose. Je vais prendre juste 3 exemples par rapport au nom. Rebecca a donné à son fils le nom de Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Et on voit que le nom qui a été donné à Jacob est quand même assez fort. Ça l'a suivi toute sa vie. Et presque, on va dire, ça a tenté d'annuler les plans de Dieu pour sa vie. Mais Dieu avait un plan, il était souverain et il a voulu quelque chose au travers de Jacob. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été usurpateur. Une autre mère a donné le nom de Jabetz, qui veut dire souffrance. Jabetz a vécu dans la souffrance jusqu'à un moment où il a supplié à Dieu. Naomi, la belle-mère de Ruth, s'est donné le nom de Mara. Mara qui veut dire amère, en raison des calamités qu'elle a vécues dans sa vie. Mais les gens ont continué à l'appeler Naomi, qui veut dire gracieuse, puisque Dieu, et puis Dieu l'a bénie au travers de Ruth. Alors je vais vous poser cette question, quelle image m'identifie ? Avec quelle image je vis aujourd'hui ? Pour certains, ça peut être une particularité qui me définit, quelque chose qui me colle à la peau. Alors ça peut être un surnom. Ce n'est pas forcément bon ou mauvais. L'idée que j'apporte là, c'est simplement de se dire, on vit avec des choses, et un surnom peut être mauvais, ça peut être bon, ça peut être neutre. Ça peut être une différence sociale. Ça peut être un handicap, une maladie, une situation familiale, le fait d'être célibataire, ça peut être difficile ou pas. Une croyance, on peut croire à des choses peut-être qui ne sont pas bibliques et qui peuvent nous donner une particularité. Croyance, par exemple, je suis vegan, je ne sais pas. Est-ce l'appartenance aussi à un groupe qui me définit ? Voilà, j'ai fait des petits personnages différents. Le fait de faire comme les autres, on a besoin de communauté, on a besoin de relations. Mais parfois, le fait d'appartenir à un groupe, eh ben, ça nous donne une identité. Ça peut être une influence familiale. Nos familles peuvent avoir une pression sur nous. Un club, toutes sortes de clubs, une association, ou des collègues de boulot qui nous mettent une pression, ou pas, ou un groupe d'amis qui peut vraiment nous donner une identité. Et ça peut être aussi un but à atteindre. Dans notre vie, on peut avoir une idée qu'on a, et je veux atteindre ce but. Alors ça peut être la notoriété, une réputation à tenir, une carrière, bien gagner ma vie, améliorer mon confort, etc. On peut dire toutes sortes de choses. Qu'est-ce que l'identité ? Rapidement, le Larousse, c'est ce qui est identique, une chose qui est identique à une autre, quelque chose qui est permanent, donc qui dure dans le temps, et qui est fondamental, qui est vraiment un fondement. Et je dirais qu'il y a quelque chose de plus subtil qui est derrière tout ça et qui altérera toujours mon image, qui fausse cette identité, cette véritable identité, parce qu'elle reste toujours cachée, on l'a vu au départ. Elle reste voilée, elle est perdue. Alors, il y a des gens très intelligents qui ont fait une pyramide. Alors, c'est en anglais parce que je l'ai trouvé plus sympa. En français, c'était moins sympa. la pyramide des besoins. Donc, apparemment, il y a une pyramide et puis différents besoins qu'on a dans nos vies. Une des choses les plus importantes qu'on a dans notre vie, c'est qu'en fait, on se définit suivant les besoins fondamentaux qui nous animent tous. Alors, on a des besoins physiques. On a besoin de nourriture, c'est normal. Nous sommes des terrestres. Nous avons besoin de l'air, on respire. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin d'être protégés de la pluie, du beau temps, oui, peut-être, du soleil. Nous avons besoin d'être protégés des bactéries, des virus. Donc tout ça, c'est des besoins physiques, matériels. Ensuite, il est question de sécurité. Nous avons tous besoin de sécurité financière, matérielle, émotionnelle. Ensuite, besoin d'appartenance. Donc c'est là où il y a marqué famille, une communauté. On a besoin de considération, d'empathie, de compréhension avec les autres, dans nos relations avec les autres. Ensuite, il y a le besoin d'estime. On a tous besoin d'être aimés, d'être rassurés, d'être acceptés, d'être honorés, d'être soutenus, d'avoir confiance. Et puis, en dernier, il y a un besoin, c'est l'accomplissement de soi. On va dire c'est un peu les buts et les choses qu'on recherche. On a besoin de choisir ses rêves. On n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui choisisse nos rêves pour nous-mêmes, mais on veut les choisir soi-même. C'est la liberté qu'on a en tant qu'humain. On a envie de choisir nos buts, nos valeurs, et ensuite, comment je vais les concrétiser? Comment je vais faire pour pouvoir aller jusque ce que je me suis mis devant moi? Donc, d'accomplir quelque chose en moi. Et tous ces besoins fondamentaux sont légitimes dans nos vies, en fonction de ce que j'ai vécu, des succès, des échecs, des épreuves, des blessures ou des manques. Tous ces besoins amènent quelque chose encore qui est derrière, et ce sont les dépendances. Alors moi, je rajouterai les dépendances à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, je m'explique. Je suis un bébé, j'ai des besoins vitaux, j'ai une dépendance à ma maman, c'est normal, j'ai besoin de lait, voilà. Je suis un ouvrier, j'ai besoin d'un salaire, donc j'ai une dépendance à mon patron, parce que c'est lui qui me donne ce salaire. Je suis malade, j'ai besoin d'être soulagé. Donc j'ai une dépendance à mes traitements. Je peux dire ça pour beaucoup de choses. Je suis timide, donc j'ai besoin d'être rassuré. Je vais avoir une dépendance au regard de l'autre. Si je suis riche, à un moment donné, je vais avoir besoin de sécurité. C'est lié au besoin de sécurité. Et donc je vais avoir une dépendance à mes possessions, etc. Je peux dire pareil pour « je suis le meilleur », besoin de reconnaissance, dépendance à l'autorité. Je peux me sentir coupable, addict, pauvre, tête en l'air, maniaque, perfectionniste, pas à la hauteur, en échec, victime. Tout cela renvoie à des images et à des attributs qui m'identifient, qui sont liés à des dépendances. Mais ça ne résout pas notre problème. L'identité de l'homme, elle est perdue, elle est cachée, elle est voilée derrière ces choses-là. Et donc la Bible nous le dit bien, il est écrit « Le premier homme Adam, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Ça, nous allons le voir. Je voulais insister surtout dans ce passage que nous avons porté l'image du terrestre. Nous portons cette image. Donc comment trouver notre véritable identité ? Dans l'exemple d'Adam, Adam et Ève, c'est intéressant parce qu'il nous a dit qu'il a eu honte. Ils ont eu honte, ils se sont cachés, ils ont été chassés du jardin. Et donc dans la honte, il y a quoi ? Il y a un sentiment pénible d'infériorité, il y a une humiliation. Quel est le besoin qui est rattaché derrière ? Ben certainement qu'ils ont eu besoin à ce moment-là d'honneur de Dieu, d'être reconsidérés par Dieu. Il a appelé son fils Seth. Alors c'est intéressant, les noms qui sont donnés dans la Bible parfois, c'est assez frappant. Seth, ça veut dire compensation, mise à la place. Là, c'est une interprétation personnelle, mais on peut imaginer que la culpabilité et le remords a projeté sur son fils le désir de vouloir rétablir et réparer sa faute. Vous pourrez imaginer ça. On ne sait pas ce qu'Adam et Ève sont devenus, mais ils ont dû vivre avec quelque chose. Ça me rappelle une anecdote, enfin, quelque chose qui m'est arrivé une fois, assez anecdotique. Et puis, des fois, on se trouve dans des situations un peu cocasses. J'étais en train de travailler, je devais être très préoccupé. C'était il y a un petit moment. Et j'avais reçu un message, mais je ne savais pas qui c'était parce que la personne ne donnait pas son nom. Et le matin, j'écoute, je me dis, pétard, qui est cette personne qui me donne ce message? C'était assez troublant, c'était assez étonnant. Puis dans la journée, je réécoutais ce message, je me dis, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir qui c'est. Et pourtant, il y avait quelque chose de familier dans ce message. Puis le soir, quand je suis arrivé à la maison, je discute avec Vanessa. Et à ce moment-là, j'ai le déclic, je réécoute le message, c'était moi qui avais fait un message. Et c'était moi qui avais laissé un message, mais c'était. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Et je me suis retrouvé. Alors, vraiment, j'ai été déconfié avec moi-même. Je me dis, mais t'es stupide ou quoi? Tu n'as pas vu que c'est toi qui t'es laissé un propre message? Tout ça pour dire que l'homme est surprenant. Je vais être fatigué. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On voit dans ce passage, c'est Jésus qui ôte le voile, et seulement Jésus, c'est seulement en Christ. Il est le miroir qui révèle notre identité. Quand on regarde dans le miroir, ce n'est pas nous qu'il faut regarder, c'est Jésus qu'on doit voir. Il est la clé, USB, que je dirais, qui déverrouille et qui libère toutes les données à notre sujet. Tout ce qui est caché, qui est voilé, qui est perdu, est révélé seulement en Christ. Et je vais même plus loin, je dirais que tous les livres de développement, toute la science, toutes les découvertes qu'on fait aujourd'hui, on peut faire des recherches et des recherches. On va aller jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il y a une limite. Parce que c'est seulement en Christ qu'on peut découvrir notre véritable identité. C'est la suite, pardon. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui... Le visage découvert, nous sommes contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit. C'est seulement en Christ. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Premier élément d'identité, nous sommes fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Je suis adopté. J'ai des besoins parce que j'ai des problèmes avec ma famille, ou j'ai des problèmes d'identité parce que je ne sais pas qui sont mes parents, ou j'ai des problèmes avec mon père parce qu'il me battait, ou avec ma mère, ou quoi que ce soit. Nous sommes avant tout, car en Christ, nous sommes fils de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers. Je passe un peu vite parce que j'ai un autre verset, d'autres versets que je voudrais lire. Je voulais prendre l'exemple de Jésus Et ce passage est vraiment, moi je trouve qu'il me parle énormément. Quand Jésus est poussé dans le désert par le Saint-Esprit, il a été baptisé, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend sur lui, il va dans le désert. Mais avant, Dieu dit quelque chose, son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à ce moment-là, il va être tenté par Satan. Après avoir jeûné 40 jours, il a eu faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, Satan le tente sur son identité. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Nous avons aussi régulièrement, par Satan, par les hommes, nous-mêmes, on se met des si. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu ? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Là, besoin physique. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporte dans la ville sainte, le place sur le haut du temple, et il lui dit encore, es-tu vraiment le Fils de Dieu ? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Tiens, jette-toi en bas. Ça doit nous arriver, ça aussi, besoin de sécurité. Car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Satan utilise même la parole de Dieu pour pouvoir répondre. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. Il essaye là aussi de créer un besoin d'indépendance ou de dépendance à Satan. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Plus tard, donc Jésus, il est dit, quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum, et de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À ce moment-là, il commence son ministère public. Donc des mensonges nous restent, qui sont présents dans nos pensées, qui sont ancrés dans nos âmes, ou parfois qui sont même scellés jusque dans nos esprits. Et la question, mensonges et fausses identités. Comment se débarrasser de ces mensonges et de ces fausses identités à mon sujet ? La première chose, c'est d'avoir reçu Jésus en tant que dans nos cœurs, d'avoir reçu le baptême et d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Sans ça, ce n'est pas possible. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? C'est connaître ce qu'il est écrit. Et il y a quelque temps, j'avais listé des versets qui parlaient justement de qui je suis en Christ. Et quand on fait une liste, c'est absolument excellent. Et ça nous conforte chaque fois qu'on est confronté à une situation difficile où on est éprouvé dans ce qu'on est. La Bible dit que je suis accepté. Et donc je les ai mis comme si c'était moi qui parlais. Je suis enfant de Dieu, je suis ami de Christ, je suis justifié, je suis attaché au Seigneur et avec lui un seul esprit. J'ai été racheté à un grand prix, j'appartiens à Dieu, je suis membre du corps de Christ, je suis un saint, je suis adopté en tant qu'enfant de Dieu, j'ai accès au Père par l'Esprit Saint, j'ai la rédemption et le pardon de tous mes péchés, j'ai tout pleinement en lui, je suis complet. Je suis libéré. Rien ne peut me séparer de son amour. Je suis caché avec Dieu. Je suis le sel et la lumière de la terre. J'ai été choisi pour porter du fruit. Je suis un témoin personnel de Christ, etc. etc. Et je voudrais insister sur ce mot « il est écrit ». Jésus a répondu comme ça, « il est écrit ». Combien de fois on va chercher « il est écrit » peut-être dans d'autres choses. Il m'arrive, moi, des fois, de lire des choses et je me dis, mais est-ce que tu crois ce que tu es en train de lire, là ? Ou est-ce que tu crois ce que la Bible, elle dit à ton sujet ? Et c'est vrai que la parole de Dieu est puissante. Elle nous change, elle nous transforme. Et j'irai plus loin simplement que le fait de croire ce que Jésus dit à notre sujet. Ce n'est pas juste pour dire, bon ben voilà, maintenant je sais, je suis bien, j'ai une satisfaction personnelle. Mais c'est pour pouvoir accomplir sa mission, c'est pour pouvoir rentrer dans ses plans, c'est pour pouvoir avoir l'assurance de parler ici et de venir, de parler avec assurance. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne sa force. Ses paroles nous y encouragent. Et en conclusion, je voudrais simplement reprendre les points que j'ai donnés ce matin. Ce qui nous importe le plus, c'est de connaître Jésus. Son image, sa vie, c'est notre image. Et si je veux découvrir qui je suis réellement, c'est de le connaître lui. Lorsque je m'identifie à Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection, je suis libéré de mon ancienne nature et je deviens une nouvelle créature. Je suis uni en son corps par le Saint-Esprit. Et je dirais que je suis aussitôt estampillé du cachet en Christ. Et dans le miroir, donc, je vois Christ, et le miroir, c'est sa parole. Je participe désormais à sa vie et à son ministère. J'ai de l'assurance et de l'audace pour accomplir toute sa mission. Je suis relié pleinement à tout ce qui est sien, tant dans le ciel que sur la terre, tant dans le présent que dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Vraiment, je pense que c'est quelque chose de primordial et de fondamental, mais qu'on a besoin d'entendre et de s'encourager les uns les autres aussi, à se rappeler, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu ? Et je dirais que ça peut déclencher et de nous libérer rapidement parfois dans des choses dans lesquelles on peut être empêtré, et qui peuvent durer dans le temps, mais qu'il y a des choses qui peuvent rapidement, simplement parce qu'on confesse ce que la Bible a dit. C'est la Bible qui est la vérité. C'est ça qui est notre identité. Et c'est ces choses-là qu'on doit imprégner dans nos cœurs. Et on est tellement inondé par beaucoup de choses autour de nous, dans ce qu'on entend. Bon, il y a les médias, effectivement, mais au travers de l'informatique, au travers des réseaux sociaux, quand on discute avec nos collègues. Et je me dis, je pense qu'il y a il peut y avoir une difficulté à vouloir essayer de parler de ce que la Bible dit à des personnes qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Christ. Et sans avoir reçu l'Esprit de Christ, il est difficile de connaître vraiment qui on est. Et je dirais que la mission que Dieu nous donne vraiment, c'est de faire des gens des baptisés et remplis du Saint-Esprit. C'est ces choses-là qui nous permettent de comprendre et de passer dans un autre univers et d'avoir ce voile qui nous est ôté complètement. Et on l'a vu au travers des témoignages de ceux qui se sont fait, qui ont été baptisés il y a quelques semaines. Le changement, dès que le Saint-Esprit vient et vient les toucher, tout de suite, il y a un déclic. Et il se passe plein de choses dans la vie de ces personnes et de chacun de nous aussi. Je vous invite à vous lever et on va prier. Puis je vous aussi vous encourager à prier. Je veux prier, mais s'il y en a qui veulent aussi prier à haute voix, vous pouvez le faire aussi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Merci parce que nous contemplons ta face, Seigneur. Nous regardons à qui tu es. Merci parce que tu es présent, Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens, Saint-Esprit, nous toucher par ta beauté. Merci parce que ton image, elle est parfaite. Merci parce qu'elle est pure. Merci parce qu'elle est amour. C'est amour. Jésus, merci parce que tu t'es donné.